Chapitre 20. Il n'était que deux clients au gîte des Tourets, Charcot et un jeune type chargé comme une mule qui faisait un tour de France à vélo. Le restaurant du bâtiment principal était fermé depuis fin octobre, mais la réceptionniste proposait des snacks à réchauffer soi-même. Franck avait ainsi embarqué trois parts de pizza quatre fromages, ainsi qu'une bière, et s'était réfugié dans son chalet à l'orée des bois. Une vaste chambre, une salle de bain avec douche et un petit coin cuisine. Un espace plutôt chaleureux. Alors qu'il dînait seul face à lui-même, il en profita pour appeler sa femme, qui venait de rentrer de l'hôpital. Elle était encore toute retournée par sa visite, et ce qu'elle lui raconta le chamboula lui aussi. La demande de Nicolas était vide de sens dans un moment pareil. D'après Lucie, Bélanger parlait d'Audra au présent, comme s'il n'acceptait pas la situation. Le fait de choisir un parrain et une marraine était peut-être un moyen pour lui de conjurer le sort, de se convaincre que le bébé allait vivre. Si la décision des médecins s'avérait être celle du débranchement, la chute de leurs collègues et amis serait vertigineuse. Quand Franck raccrocha, son regard se perdit dans la nuit à travers la baie vitrée. Un sentier éclairé par des lampes à énergie solaire invitait à la promenade. Il enfila son blouson et sortit faire un tour. Il avait besoin de respirer. D'ordinaire, il aurait détesté être ici, loin de sa famille. Mais ce soir-là, il se dit qu'il n'aurait pas pu être mieux ailleurs. La nature, le calme, et aucun compte à rendre à personne. Ce que ça faisait du bien. Il progressa dans la végétation silencieuse où, de temps à autre, résonnait un craquement. La forêt autour de lui vibrait. Les luminaires dévoilaient des oasis de fougères, d'épines, de feuilles rousses. Il traversa un petit pont en bois d'à peine un mètre au-dessus d'un ruisseau ridicule et se replongea dans ses réflexions. Il pensa notamment à l'abbaye, au père François, à Nébraza. Il avait jeté un coup d'œil aux photos publiées par l'ancien artiste sur son site avant de se réfugier dans la maison de Dieu, à la description qu'il avait faite des démons qui le pourchassaient, dont quelques-uns ressemblaient à ceux représentés dans le diorama d'Emma Doty. Il devait absolument trouver le moyen de comprendre le type de relation que l'homme squelette avait entretenue avec elle. Qu'avait-il confié à la séroplasticienne pour qu'elle se déplace à plusieurs reprises jusqu'ici? Y avait-il un lien avec sa disparition? Plus loin, au niveau d'une barrière qui marquait le bout du chemin, il consulta son portable. Ouf, il y avait un peu de réseau. Et récupéra le téléphone de la voisine, grâce à la photo qu'elle lui avait transférée. Dans la foulée, il lança un appel en remontant le col de son manteau. Les températures s'effondraient, l'humidité désormais installée le prenait à la gorge. « Madame Jouillard ? Pardon de vous importuner à cette heure, je suis le policier à la recherche d'Emma. » J'étais chez elle lorsque vous êtes entré.
Je me rappelle, bien sûr. J'ai failli mourir de peur.
J'aurais besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Que vous alliez vérifier dans la pile de courriers sur la table s'il n'y a pas des enveloppes en provenance d'une ville qui s'appelle Auxon, en Côte d'Or. Vous ne trouverez peut-être pas ces informations, mais il y aura un cachet de la poste indiquant le numéro à 5 chiffres 23044.
C'est qu'il est tard. Et puis, je suis en robe de chambre.
« S'il vous plaît, c'est très important. Du courrier avec le numéro 23044. »«
D'accord. »
capitula la vieille dame.
« Je vous recontacte d'ici 5 minutes. »
Satisfait, Franck fit demi-tour pour rejoindre son chalet. Un nouveau craquement s'éleva dans la nuit, si fort que le flic s'immobilisa. Il ignorait quel genre de bestiole peuplait les alentours, mais ce n'était certainement pas un petit écureuil. Un chevreuil? Un sanglier? Il scruta les ténèbres, finit par trouver sa frayeur stupide. S'il existait un gros animal dans cette forêt qui devait terrifier les autres, c'était lui. Décidément, cette histoire de diable lui tapait sur le système. À cet instant, la sonnerie de son téléphone retentit et lui arracha un sursaut.
« J'ai tout regardé, »
annonça son interlocutrice.
« Il n'y a rien du tout. »«
Vous êtes certaine ? Le dernier courrier date de début octobre. Si Emma était absente, c'est forcément vous qui l'avez ramassé. »«
Absolument certaine. »
Charcot la salua et raccrocha, frustré. Qu'est-ce qui clochait? L'abbé avait-il pu se tromper? La lettre avait-elle été envoyée bien avant, du temps où Emma donnait encore des signes de vie? Elle l'aurait alors lue et rangée quelque part. Non. Le moine avait parlé d'octobre sans la moindre hésitation. Donc soit le courrier s'était paumé, soit quelqu'un l'avait embarqué. Ou alors? Une idée venait de lui traverser l'esprit. Il n'eut pas le temps de creuser. De nouveau, son portable se manifesta. Un numéro non enregistré.
Commandant Charcot, Abbé François à l'appareil.
Mon père, vous tombez bien. Je pensais justement à vous. Est-ce que vous vous souvenez de l'adresse à laquelle vous envoyez les lettres de Nebraza? Est-ce que c'était dans le 11e arrondissement de Paris?
Non, ce n'était pas à Paris, c'était à Vanves. Je vous communiquerai l'adresse exacte si vous en avez besoin. Je l'ai noté dans un carnet.
Bingo! Emma se protégeait ou se méfiait. Elle n'avait pas révélé sa véritable adresse à Nebraza et disposait donc visiblement d'un autre pied-à-terre, un endroit qu'elle louait peut-être et qui justifierait les retraits de 800 euros en liquide qu'elle faisait depuis le mois de mai.
« Vous êtes au gîte des Tourets, commandant ?»
La voix du moine était devenue grave. Franck inclina la tête. « Oui ?»«
Je préfère vous en informer. David est introuvable. »«
Comment ça, introuvable ?»
Eh bien, il n'est plus dans sa chambre. On a fait le tour des bâtiments, on scrute désormais les jardins, la cour et les environs. On pense qu'il est sorti. Un des tiroirs de la cuisine était grand ouvert. Un couteau aurait disparu d'après le frère responsable du repas.
Charcot ralentit sa marche. Le stress venait de grimper d'un cran. Il lui est déjà arrivé de réagir de cette façon?
Jamais.
Vous avez prévenu la gendarmerie?
Pas encore. On aimerait résoudre ce problème nous-mêmes.
Je vois. Continuez à chercher. Et si vous n'avez pas de nouvelles dans une heure, appelez-les.
Très bien. Mais je voulais aussi vous dire, David sait que vous résidez au gîte.
Comment l'a-t-il appris?
Il me l'a demandé lorsque je lui ai apporté son repas après votre départ. Je suis désolé, j'ai été naïf, mais c'était dans le fil de notre conversation. Pour une fois qu'il parlait, je n'aurais pas dû et...
Merci de m'avoir prévenu. Le flic raccrocha vite et s'immobilisa, la gorge serrée. Il était persuadé qu'on l'observait.